Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute des programmes de Radio Okapi. Votre radio vous propose le magazine Bana Okapi, un espace dédié aux jeunes et plus jeunes autour de questions liées à l'éducation, l'entrepreneuriat, la santé, l'environnement et la protection de l'enfant. Je suis Sarah Sumbela. Polydor Basunga assure la mise en onde. Jean-Claude Siala est à la prise de son de ce magazine qui connaît la participation des André Kitenge, Rachel Kessembangu, Ezekiel Mouzalia, Grévis Salumu, Guylaine Kassassia, Grâce Ouvezolo, Plamedimbi Yavanga et Stanislas Diomi. Gisèle Cage réalise ce programme de Radio Okapi financé par l'UNICEF, supervisé par Jean-Marc Matwaki Mofelele Dijano. Votre magazine fait un focus sur la Journée internationale de la jeunesse avec un accent sur l'implication des jeunes dans la lutte contre la désinformation. Comment lutter contre la désinformation, ces fléaux qui minent la paix? C'est la problématique au cœur du débat et des échanges. Et puisque vous connaissez déjà les menus, on s'installe confortablement en écoutant d'abord ce disque avant de faire notre tour d'horizon. Okapi se poursuit, nous sommes très heureux de vous compter parmi les fidèles de ce magazine dédié aux jeunes. Cap sur le Nord Kivu, la ville de Beni est notre première destination. Alors que la RDC fait face aux tensions armées à la suite de la guerre d'agression soutenue par le Rwanda, le pays doit affronter un autre fléau, celui de la désinformation, plus particulièrement dans la partie est du pays. Les fake news véhiculées à travers les réseaux sociaux ont atteint des sommets à mesure que les tensions armées s'intensifient. Depuis des années, l'armée nationale FRDC, appuyée par les casques bleus de la MONUSCO, fournit les efforts pour ramener la paix dans cette région. Mais selon la MONUSCO, ces efforts sont souvent minés par la désinformation qui compromet les actions civilo-militaires. Les fausses informations véhiculées par les réseaux sociaux, les médias classiques ou les bouches à oreille incitent certains habitants à adopter des comportements de résistance, voire des défis face aux forces de défense et de sécurité. La confiance en l'ère militaire et policier s'effrite, tandis que les casques bleus de la MONUSCO sont fréquemment accusés d'inefficacité. Comment lutter contre la désinformation, ces fléaux qui minent la paix? André Kitenge nous fournit quelques éléments de réponse dans ce dossier.
La désinformation cause aujourd'hui des dégâts dans la région de Beni, Butembo et Lubero à travers les réseaux sociaux. Des organisations internationales sont attaquées et certaines personnes sont même tuées à cause de la propagation des fausses nouvelles à travers les réseaux sociaux et certains médias traditionnels. Une situation qui préoccupe plus les organisations des jeunes et de la société civile dans la région. C'est quoi la désinformation? Jean-Toby Okala, chef de la section de l'information publique de la MONUSCO Beni, explique.
La désinformation, c'est la manipulation. C'est l'utilisation des techniques de l'information de masse pour induire une communauté, une personne, des individus tout simplement en erreur. C'est aussi le fait de cacher la vérité ou de travestir les faits. Voilà ce qu'on entend par désinformation. Donc, on veut cacher quelque chose, on veut travestir, c'est-à-dire détourner la réalité des faits parce qu'on a un objectif qu'on veut atteindre. La désinformation, la manipulation de l'opinion, elle est pernicieuse, elle est mortelle, elle est destructive, elle est nuisible, elle sape les efforts des États en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de construction de l'unité nationale et même de lutte contre l'insécurité ou les groupes armés.
Afin d'arrêter ce fléau considéré comme le cancer de la société, la MONUSCO Beni, à travers travers sa section de l'information publique, s'emploie à sensibiliser les différentes couches de la population et les médias afin d'y mettre fin. Jean-Toby Okala.
C'est depuis plusieurs années que la MONUSCO a lancé cette bataille, cette caravane, n'est-ce pas, pour sensibiliser les communautés. Alors pourquoi le faisons-nous? Mais c'est parce qu'il y a des menaces. Il y a des menaces sur tout. Il y a la menace sur l'information, la menace sur la démocratie, la menace sur la sécurité, la menace sur notre planète qui est notre maison commune. Il y a la menace sur les médias classiques. Les gens ne croient plus à la radio, à la télévision, aux médias classiques. On préfère se fier à ce qui circule sur les réseaux sociaux. Il y a les menaces sur la paix, menaces sur la cohésion sociale, menaces sur la santé. On est dans une région qui est souvent victime d'épidémies. Je parle d'Ebola, Covid-19 a été une épidémie mondiale. Mais combien de gens ont perdu leur vie ici, dans cette région, pendant l'épidémie d'Ebola, à cause de la désinformation? Tout simplement parce que certains leaders communautaires ont fait passer la fausse information selon laquelle, si les parents les amenaient pour se faire vacciner, ils allaient tous mourir. La désinformation est devenue, je dirais, le fond de commerce de tous ces fossoyeurs de la démocratie, ces fossoyeurs de la vérité, de tous ces complotistes, c'est-à-dire ces gens qui veulent que la société marche, j'allais dire, la tête en bas et les pieds en l'air, si vous me passez l'expression.
Selon Samuel Katembo Donsekanabo, président du Parlement des jeunes de Béni, la sensibilisation et la vulgarisation du code numérique doivent se poursuivre afin d'expliquer aux jeunes les conséquences de la désinformation.
Nous continuons à sensibiliser parce que tout ce qui se passe est que les gens n'ont pas su gérer leur groupe WhatsApp. Or, le code du numérique punit des publications incitant à la haine et nous continuons toujours la vulgarisation du code du numérique mais aussi la formation dans des groupes spécifiques par rapport à la désinformation dans des réseaux sociaux. Et nous demandons à tous les administrateurs de groupes WhatsApp qu'ils puissent mettre de l'ordre dans leur groupe. D'abord, la jeunesse doit comprendre que tout ce que nous faisons, nous en sommes responsables aujourd'hui, même dans le futur. Et nous encourageons tous les partenaires qui est en train de mettre l'accent sur la désinformation. Encourageons la MONUSCO pour sa manière de travailler avec la communauté pour l'appuyer de la désinformation. Mais ce qui reste encore à faire, c'est élargir la zone. Vous savez, lorsqu'on forme sur la désinformation, c'est peut-être une minorité des gens qui profitent de cette formation. D'autres ne bénéficient pas directement. Donc, nous demandons à tous les partenaires d'accompagner encore une fois les actions visant à lutter contre la désinformation pour que notre zone soit écartée du risque de la désinformation. Mais aussi, nous, acteurs utilisant des réseaux sociaux, comportons-nous aussi responsables.
Pour certaines organisations de la société civile, il est important que l'État congolais sanctionne ceux qui s'adonnent à la désinformation pour essayer de mettre fin à ce fléau. Benjamin Assimoni, coordonnateur de l'ONG Jeunes Patriotes pour la consolidation de la PJPCP.
La loi sur les numériques existe déjà, mais nous ne voyons rien qui se fait. La ville de Béni, nous qui sommes dans les forums WhatsApp, par exemple, qui accueillent des informations sans tête ni queue, mais on n'a connu aucun cas d'arrestation de quelqu'un qui aurait propagé une fausse information qui porterait atteinte, par exemple, à la sécurité, qui auront de caractère à influencer l'opinion publique vers, n'est-ce pas, le désavou, soit des autorités, soit aussi l'instauration d'une crise de confiance vers, n'est-ce pas, les autorités qui ne ménagent aucun effort pour, n'est-ce pas, imposer le retour de la paix. C'est très important et pertinent de contrôler et de réguler les informations afin que celles qui ont le caractère d'une désinformation ne puissent pas perdurer parce qu'elles peuvent arriver, n'est-ce pas, à décimer la communauté et à créer des fissures dans les tissus sociaux, surtout à disperser ces caractères de cohésion et d'unité des efforts dans le processus du retour de la paix.
Docteur Baba Mutuza, analyste indépendant, fait savoir que les auteurs de la désinformation se sont livrés aux mensonges pour des raisons inavouées. Selon lui, cette désinformation affecte plus la population que les ONG qu'ils accusent à tort ou à raison d'être à la base de l'insécurité dans la région.
Pour la zone de Béni, il y a cet aspect où ce coup de pouce des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens qui ont commencé la désinformation, ils ont manqué la cible en réalité. Ils n'ont pas d'autre choix que de se retourner vers l'armée par exemple et d'autres politiciens. J'explique. Ça fait à peu près 5 ans qu'on nous a rabâchés pour nous dire que ceux qui sont à la base de tous les malheurs des Congolais, c'est la MONUSCO ici. On a passé des jours
sans travailler. On nous a fait marcher à pied des mois et on a dit, si vous faites partir la MONUSCO, les mêmes jours vous allez retrouver la paix. Mais vous savez, comme les Français le disent, les mensonges empruntent toujours l'escalier, mais la vérité finit par triompher. On est passé le temps et les gens se sont rendus compte qu'en fait des comptes, c'est pas la MONUSCO qui est à la base de ça. Mais dès lors que ces discours-là, ils peuvent plus venir aujourd'hui et dire aux gens c'est la MONUSCO, d'après vous, ils vont se retourner vers, ils se tournent vers quoi? Vers d'autres organisations internationales. En ce sens que, ils disent, ces gens-là transportent les armes. Ces gens-là, ils sont à l'assaut de l'ennemi. Mais c'est qu'ils oublient en réalité. Et s'il faut le dire, je vais le dire tôt ici. Si c'est les agences tunisiennes et d'autres ONG internationales, même nationales, si c'était pas ici, j'aimerais dire, la population, surtout rurale, croupirait dans la misère la plus terrible. Donc ceux qui font la désinformation, ils causent pas mal seulement aux ONG. Ils causent surtout mal à leur propre population qu'ils pensent défendre.
Comment les médias doivent lutter contre la désinformation et les discours de haine? Jean-Toby Okala donne quelques astuces aux professionnels des médias et administrateurs des groupes WhatsApp.
La presse, elle constitue un vecteur essentiel, n'est-ce pas, de ce cancer qui est en train de gangréner nos sociétés. Nous devons faire très attention à la désinformation, dont on sait qu'un des corollaires est la haine, n'est-ce pas, la violence, et même les discours de haine. Et on sait le mal, n'est-ce pas, que tout cela a causé à cette région de Beni, Lubero, Butembo. Est-ce que tout doit être dit à la radio? Quelques trucs, quand vous avez une information, regardez la source. Qui a écrit l'article? Ça vient de qui? Est-ce que c'est quelqu'un qui est crédible? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait autorité? Quel est l'objectif poursuivi par cette personne? Combien de fois l'article a-t-il été repris?
C'est également le vœu de toutes les organisations des jeunes et de la société civile. Elles invitent les auteurs de la désinformation à mettre en pratique ces astuces afin de mettre fin à la désinformation. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bienvenue dans cette seconde partie du magazine Bana Okapi qui accorde la parole aux jeunes et plus jeunes autour de questions liées à l'éducation, entrepreneuriat, santé, environnement et protection de l'enfant. Je suis Sarah Sumbela. Polydor Basunga assure la mise en onde. Jean-Claude Siala est à la prise de son. André Kitengi, Rachel Kesembango, Ezekiel Mouzalia, Grévis Salomo, Guylaine Kassassia, Grasso Rezolo, Plamedimbia Vanga et Stanislas Diomi coproduisent ce magazine. Gisèle Cage réalise ce programme de Radio Capi financé par l'UNICEF, supervisé par Jean-Marc Matsuki Mofelele Dijano. Dans cette seconde partie, votre magazine poursuit son focus sur la Journée internationale de la jeunesse avec un accent sur l'implication de jeunes dans la lutte contre la désinformation. Comment lutter contre la désinformation? Ces fléaux qui minent la paix? C'est la problématique au cœur du débat et des échanges. Et on s'écoute un autre disque avant de retrouver nos invités.
Le 42 502, c'est Radio Okapi dans votre téléphone. Par un simple appel au 42 502. Une fois sur le 42 502, vous avez le choix entre différents programmes. En tapant le 311 pour le journal, la revue de presse au 312, le flash info au 313, le 321 pour le sport, la chronique santé au 322 et Banandoulé au 323. Le 42 502, c'est Radio Okapi dans votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42 502, uniquement pour les abonnés Vodacom.
Très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute du programme de Radio Okapi qui vous propose son magazine Bana Okapi. Le numéro de ce jour se penche sur la Journée internationale de la jeunesse avec un accent sur l'implication de jeunes dans la lutte contre la désinformation. C'est l'heure de recevoir notre premier invité depuis Goma, le journaliste qui est également écrivain, Nikes Kibel Bel Oka, journaliste d'investigation, éditeur du journal Les Coulisses, écrivain et auteur de plusieurs ouvrages. Dans de régions de guerre, il s'observe une forte désinformation, notamment sur les opérations militaires en cours. La désinformation joue un très mauvais rôle car elle accompagne la rumeur. Pour lutter contre la désinformation, il propose que la loi sur la cybercriminalité soit renforcée et appliquée scrupuleusement. Nikès Kibelbel-Oka, dans cet entretien avec Gisèle Cage.
Nikès Kibelbel-Oka, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, journaliste d'investigation et éditeur du journal Le Coulisse et vous êtes basé à Goma dans la province du Nord Kivu. Dites-nous, comment appréciez-vous la désinformation?
Merci beaucoup. On ne peut l'apprécier que négativement. Désinformation détruit pratiquement l'information et désoriente complètement ceux vers qui elle est adressée.
Ok. Mais pouvez-vous nous parler aussi des conséquences de la désinformation dans le processus de paix? Déjà, vous vivez dans une région où règnent des tensions armées. Actuellement, la région fait face à la guerre du M23, le terrorisme des ADF dans la région de Beni, finalement. Quelles sont les conséquences de la désinformation dans le processus de paix, d'après vous?
D'abord, la désinformation est né depuis toujours, mais a été accentué avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment avec l'Internet et les réseaux sociaux. Et la désinformation, c'est pratiquement cette volonté de donner une fausse information afin de désorienter l'opinion. Dans des régions de guerre, comme vous l'avez cité, comme Beni, comme Goma, comme l'Ituri, il y a une forte désinformation, notamment sur les opérations militaires, et qui entrave même la sécurité, qui crée des stress dans le chef de la population. Donc, c'est une chose qui n'est pas souhaitable, mais la désinformation est là parce que l'information n'arrive pas à temps et parce que les gens sont pressés de connaître ce qui se passe, notamment sur le terrain.
Selon vous, est-ce que vous avez des cas, par exemple, de la désinformation et qui ont eu des conséquences, par exemple, négatives sur le terrain? Avez-vous quelques exemples à nous donner?
Ben oui, je peux vous donner deux exemples. À l'époque d'Ebola, vous savez, il y a un médecin camerounais de l'OMS qui a été tué à Butembo, simplement parce qu'il y avait une désinformation. Une désinformation comme quoi il avait beaucoup d'argent, il y avait ceci, cela, et le Maïmaï sont entrés, on l'a tué. Voilà une des conséquences de la désinformation, où il y a mort d'homme. Il y a une autre désinformation. Et à Beni, il y a un véhicule de la MONUSCO qui fait un accident. Dedans, on trouve des casiers vides de bière. Ces casiers vides de bière, comme des sacs de sable, sont là pour stabiliser les véhicules. Mais pour ceux qui prennent des images, qui montrent, ils donnent une autre connotation à cette information et ça désinforme complètement et ça crée un préjudice pour la MONUSCO. Il y a autant d'exemples qu'on peut citer jusqu'à dormir, mais la désinformation joue un très très mauvais rôle parce que la désinformation aujourd'hui accompagne la rumeur. Elle part de certains faits qui vraisemblables pour effectivement donner une valeur assez suicidaire, nuisible pour la vraie information et pour les consommateurs.
Mais il y a aussi le fait que beaucoup de jeunes utilisent les réseaux sociaux par leur page spécialisée pour s'informer plus rapidement et il s'observe finalement une perte de confiance énorme envers les médias traditionnels. Comment faire finalement pour renverser la tendance? Que faire pour que le jeune, par exemple, se tourne vers les médias traditionnels qui ont quand même le temps de vérifier les faits avant toute diffusion?
C'est le plus grand défi que la communauté aujourd'hui lance aux médias traditionnels. Que faire? C'est-à-dire que les médias traditionnels doivent continuer à donner la vraie information en procédant par tous les processus possibles, collecte, traitement et diffusion, mais aussi pour les jeunes et la communauté, continuer à faire confiance aux médias traditionnels parce qu'au moins ils savent que ceux-là, ils ont des références, ils ont une identité, ils peuvent rectifier une information dans les cas où ça s'avérait fausse, au lieu d'aller sur des personnes non connues, des personnes qui ne sont pas des journalistes, mais qui, grâce aux réseaux sociaux, ont pris une certaine ascendance. Donc, il y a un défi pour les professionnels, les journalistes, de faire très bien leur travail, mais aussi pour la communauté de ne pas consommer n'importe quoi et surtout de se poser des questions de la source de l'information et de la personne qui la donne.
Comment lutter contre la désinformation, surtout dans le milieu de la jeunesse, pour que cela n'entrave pas au processus de paix? Quels conseils pouvez-vous donner?
Le premier acte pour lutter contre la désinformation, c'est la vraie information. Mais il faut aller plus. C'est la loi qui doit empêcher, qui doit faire peur aux gens qui désinforment. Donc, en principe, il y a la loi. Mais aujourd'hui, nous avons la cyberguerre, la cyberattaque, la cybercriminalité. Et nos lois ne répondent pas. Nos lois sont un peu en retard par rapport à l'évolution des technologies. Donc, donner la vraie information et sensibiliser les jeunes, notamment à connaître, à se fier à des médias traditionnels, à des médias connus. Et naturellement, on ne peut pas tout lire. Malheureusement, aujourd'hui, les jeunes lisent tout sur les réseaux sociaux. Une personne normale ne peut pas tout lire. Et il faut renforcer les lois, comme j'ai dit, pour punir les cybercriminalités, la désinformation, la rumeur, parce que surtout, ce sont des allégations, des diffamations qui portent atteinte à des personnes et même à des entreprises.
Nikes Kibebeloka, merci. Et je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain et éditeur du journal Les Coulisses.
Je vous remercie.
Comment la désinformation peut nuire au processus de paix? Nous en parlons avec notre invité qui n'est autre que le journaliste Rodriguez Kachuva. Il est également co-initiateur de Congo Check, une organisation de vérification de faits. Pour lui, la démocratisation de l'information grâce à l'Internet est notamment à l'origine de la désinformation. Rodriguez Kachuva s'entretient avec Gisèle Cage. Il parle d'abord de ce que fait Congo Check dans la lutte contre les fake news. On écoute.
Rodriguez Kachuva, bonjour.
Bonjour, cher journaliste Gisèle.
Vous êtes journaliste et co-initiateur du Congo Check. Quel est exactement le travail de Congo Check et d'où est partie l'idée de créer cette organisation?
Quand on était sur le point de lancer Congo Check, en fait, c'était Rodriguez Kachuva, Sami Mufuni et Fisto Mamba. On était tous les trois. Moi, je travaillais pour Abari RDC, qui était une innovation d'un blog des 100 jeunes, donc blogueur congolais. Fiston était rédacteur en chef de Politico.cd et Sami était un des rédacteurs et des contributeurs d'actualité. Il y avait déjà des médias qui faisaient de l'actualité très bien, donc à ce moment-là, Actualité et Politico, et puis il y avait déjà du blogging, donc il fallait innover. Et nous, on était les premiers donc à lancer la vérification des faits. On a été formé en Afrique du Sud, on a fait de formation aussi en Europe et on a été les premiers à lancer ça. Et c'était surtout, et ça je l'ai dit vraiment, je continuerai à le dire, on sait que la désinformation tue littéralement chez nous, donc on a lancé ces médias pour être d'abord les premiers à faire le fact-checking et sauver des vies, parce qu'à ce moment-là il y avait Ebola qui était en train de faire beaucoup de victimes en République démocratique du Congo en 2018, mais aussi il y avait ce processus électoral où il y avait beaucoup de désinformation à caractère de message de haine qui circulait depuis qu'il n'y avait pas eu les élections de 2016. En tout cas, c'est trois éléments qui étaient les motivations de lancer Congo Check.
Nous parlons de la désinformation et ses répercussions dans le processus de paix. L'écosystème de l'information digitale représente en tout cas un terrain propice à la désinformation. Comment détecter une vraie information de celle qui ne l'est pas? Et quels sont les outils de vérification d'une information sur le net?
Ce qu'il faut savoir avec Internet, c'est que Internet a permis la démocratisation réelle de l'information, en tout cas l'accès à l'information, que ce soit la diffusion ou juste l'acquisition, donc la lecture de l'information, ça a été très très démocratisé grâce à Internet. J'ai dit tout à l'heure que j'avais fait partie de la barrière d'essai qui donnait la parole à des paysans, qui donnait la parole à des opposants, qui donnait la parole à de la jeunesse qui s'exprimait tous les jours. On publiait 4 articles sur Internet. Actualité.cd, Politico, Radio Capi, Média Congo et RFI, c'était des sites Internet de référence et donc qui démocratisaient quelque sorte l'accès à Internet. Malheureusement, cette démocratisation a aussi ses côtés négatifs, c'était ce fait que tout le monde peut devenir aujourd'hui diffuseur de l'information. Créer un blog, ça ne coûte rien. Gratuitement, on peut créer un blog et avec 20-30 dollars, on peut l'héberger pendant une année et avoir un autre domaine. Donc, avec ça, ça a fait que tout le monde aujourd'hui, malheureusement, donc c'est le revers de la médaille peut créer une information et la diffuser. Alors, comment se prémunir contre la désinformation? La plus grande force de lutte contre la désinformation, c'est le bon sens. En tout cas, le bon sens humain. Le bon sens humain, c'est-à-dire quand même, tu t'interroges d'abord en disant, est-ce que ceci peut être vrai? Alors, si une information te fait sursauter dans tes conditions sentimentales, émotionnelles, réfléchis, parce que du coup, c'est là le premier piège, on est tenté de partager immédiatement. Deux.
Donc, réfléchir avant de la partager.
Oui, c'est ça, réfléchir avant de partager, se dire, cette personne, le bon sens, c'est par exemple, celui qui m'envoie ça. Alors, mon oncle, qui est peut-être agronome, m'envoie un article sur, par exemple, les fusées et tout ça, qui n'est pas forcément son domaine, je vais me poser la question. Ou alors, un ami avec qui on a étudié, qui est gérant dans une banque, par exemple, mais il t'envoie une information médicale, tu te dis, est-ce qu'il a la capacité, est-ce qu'il a pu analyser? Donc, du coup, la qualité de la personne qui partage l'information, tu dois remettre cela en question. Et puis, toujours vérifier sur des médias de référence. Il y a quelques médias, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous on est Congo Tchèque et à ce jour on est le seul média de l'Afrique francophone reconnu par l'IFC, donc le réseau mondial des fact-checkers, dans toute l'Afrique francophone, et on est en train de former des jeunes médias qui viennent. Il y a au moins 10 nouveaux projets entre Kinshasa, Goma et Uvira, et on continue de les accompagner pour démocratiser la lutte contre les fake news. Donc c'est taper des mots clés sur Google, par exemple. Je vais juste résumer parce que je pense que je l'ai dit trop rapidement. Premièrement, le bon sens. Votre bon sens va vous dire, est-ce que cette information me fait sursauter, donc je dois prendre du recul. Après, vous posez la question, la qualité de la personne qui partage l'information. Est-ce qu'elle a cité des sources? Et après, prochaine étape, vous-même, vous tapez des mots-clés sur Google. Par exemple, on parle du taux d'échange, on dit le taux 1 dollar est devenu 1000 francs. Vous tapez juste sur Google, taux franc congolais dollar. Vous tapez ces trois mots, vous allez tomber directement sur les données de la Banque mondiale et les données de Google des conversions. Comme ça, vous n'allez pas tomber dans la désinformation. Mais malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte très cher Internet encore en République démocratique du Congo. Quand vous tombez sur une information, vous pouvez aussi écouter la radio. Il y a certaines radios comme Radio Capi qui ont des éditions de journaux très régulièrement. Écoutez des radios officielles, RTMC, RFI ou bien même vos chaînes locales chez vous. Si c'est une information flash, ça va forcément passer. La radio, c'est parmi les choses les moins chères à suivre. Il suffit d'une batterie. On a la radio dans son téléphone. On a des radios qu'on achète des piles et ça va durer une semaine. Écoutez la radio même pendant 30 minutes et peut-être qu'on en parlera. Et si on n'en parlait pas, c'est que ça n'a pas été vrai. Vous ne partagez pas. Et si l'information est quand même vraie que vous voulez partager, sachez qu'il y aura toujours quelqu'un pour qui vous serez le premier à avoir donné l'information. Ne courez pas au scoop. Il y aura toujours quelqu'un qui aura lu l'information pour la première fois chez vous. Alors ne soyez pas précipité à partager avant d'utiliser votre bon sens, avant de vérifier l'information et de contre-vérifier sur d'autres médias de réputation comme Congo Tchèque, je le disais.
Est-ce que finalement il y a des jeunes, des personnes qui vous contactent pour vérifier une information?
Oui, il y en a et énormément, et je suis vraiment fier de cette nouvelle culture qu'ont de plus en plus les internautes congolais de vouloir vérifier. En tout cas, on est très régulièrement tagué, soit personnellement en tant que journaliste, soit notre média. Et vu qu'on parle de taguer, je dois accepter avec regret qu'il y a eu un cas en 2019, en fait, juste après les élections à Bukavu. Quelqu'un de Bukavu nous a contacté en disant, Congo Tchèque, il y a une rumeur à Bukavu qui dit que la première dame Denise Nyakeru, ça c'était juste après l'investiture de Félix Tshisekedi, la première dame, Denise Nyakeru, interdit aux filles du Congo de porter des pantalons et des jupes courtes. Cette rumeur, comme ça, on peut penser qu'elle est ridicule, mais en vrai, ça a fait des victimes à Bukavu. Il y a des femmes qui ont été déshabillées par des motards qui disaient, toi, tu n'as pas respecté ce que la première dame a dit. Alors que normalement, ça semble ridicule comme rumeur. On peut se dire, mais tu vas voir ça, tu diras que c'est faux, mais ça a fait des victimes. Il y a une femme qui était à Essence, qui a même été déshabillée par des motards. On a pris ses photos, on les a envoyées partout. Et nous, on avait tardé à répondre à cela. Et ça reste un de mes plus grands regrets. Donc du coup, en RDC, on n'ose même pas négliger, peu importe la rumeur, on ne la néglige pas parce qu'en vrai, elle peut avoir des vraies conséquences sur les humains.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Capi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicace@radiocapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
La désinformation tue, les fausses rumeurs peuvent créer la diversion et des tensions. Les conséquences sont graves. Rodriguez Cachuva, une fois de plus en entretien avec Gisèle Cage, il interpelle la conscience de jeunes face à la désinformation.
Quelles sont les conséquences de la désinformation dans le processus de paix? Prenons les cas, par exemple, de la région de l'Est, là où il y a des tensions armées. Quels sont les cas que vous-même vous avez pu répertorier, identifier?
Déjà, entre 2018 et fin 2020, quand il y a eu l'épidémie de Ebola, donc la deuxième plus grande crise, avec plus de 2500 morts, parce que là, il y avait eu plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest, et depuis de toute l'histoire des Ebola, la deuxième pire, c'était celle qui s'était lancée à Beni à Mangina. On avait lancé une rumeur en disant que on jetait Ebola dans les toilettes. Alors, un matin, un infirmier qui allait au travail, il avait déjà mis sa combinaison d'infirmier, il a eu pipi très tôt le matin et il a voulu se soulager dans les toilettes d'un voisin. Et il a été surpris. Et là, les gens ont dit, voilà, vous voyez, très tôt le matin, il vient de jeter Ebola dans nos toilettes. On l'a tabassé, il était sur le point de mourir. Heureusement que la police est venue intervenir. Et cela lui a sauvé la vie. L'épicentre de Ebola, c'était Beni. Malheureusement, à Butembo, avec les élections, il y a eu des députés qui ont menti à la population en disant qu'on volait les organes des personnes qu'on enterrait. Parce que quand on meurt d'Ebola, on fait ce qu'on appelle un EDS, un enterrement digne et sécurisé. Et ce sont des personnes formées par la Croix-Rouge qui s'occupent de cet enterrement parce qu'une personne qui meurt d'Ebola est fortement contagieuse. Alors, cette rumeur de dire qu'on faisait ces EDS-là pour en profiter et voler les organes a été très tenace à Butembo. Des jeunes arrêtaient les cortèges de personnes qui allaient faire des enterrements et ils touchaient le corps des personnes pour s'assurer qu'aucun organe n'a été volé. Malheureusement, après, ça a fait que l'épicentre était à Butembo de la maladie. Et puis parlons maintenant actuellement de cette crise de la rébellion ADF, la rébellion du M23. Peu importe le décret de la désinformation, ça peut tuer les gens. Déjà, j'ai vu certains compatriotes qui, par exemple, peuvent dire telle cité a été récupérée par l'armée régulière. Par exemple, c'est un surtout des patriotiques. Mais si cela est faux, on expose des personnes qui vont penser rentrer dans leur village et en fait, elles vont se retrouver face aux rebelles qui sont encore là, si ce n'est pas vrai. D'un autre côté, la rébellion du M23, donc on essaie d'y défendre certaines communautés qui seraient discriminées en République démocratique du Congo, c'est un milieu très propice pour lancer la désinformation. On a vu un officier FRDC qui s'est fait lyncher chez lui en Docho, parce qu'on a dit, enfin, c'était un soir, et on l'a vu dans son quartier, on a dit, non, lui, il doit être du M23, juste comme ça, et cela a suffi qu'il soit lynché. Donc, en cette période des tensions, c'est encore pire. La désinformation tue littéralement des gens, et on a vu aussi, moi j'ai vu beaucoup de comptes pro-M23, par exemple, qui sont en train de prendre des images d'ailleurs, du Cameroun et tout ça pour dire voilà, écoutez, on est en train de faire ceci à des Tutsis au Nord Kivu, alors que cela n'est pas vrai. Donc, que ce soit d'un cas ou d'un autre des belligérants, la désinformation est devenue un outil qu'on utilise même sans vergogne, parfois même par des gouvernements ou des ambassades, pour gagner aussi une partie de cette guerre. Et nous maintenant, en tant que Congo tchèque, on doit être au milieu. Et là, ça rend un peu plus difficile le métier déjà de journaliste qui est très difficile dans des zones en tension, mais quand on est en plus dans la vérification des faits, ça devient très, très, très compliqué. Mais nous, on pense que la vérité, elle est très importante. Peu importe la situation, il faut vraiment toujours et toujours vérifier. Dans ces contextes de tension et avec, je dois le dire, une population dont le niveau d'alphabétisation n'est encore pas et qui doit continuer à croître. Donc, une désinformation peut littéralement lancer des hostilités. Il y a des groupes de pression comme Veranda Mutsanga, par exemple. Il y a des groupes comme ça dans le Grand Nord qui sont très suivis. Et dès qu'une fausse rumeur est partagée là-dedans, c'est des groupes de pression. Ils peuvent très facilement influencer, lever des masses et directement se lancer dans des activités de manifestation ou bien alors de répression. Et dans le sud du Nord Kivu, où il y a cette guerre du M23, qui est le M23 qui dit clairement soutenir soutenir certaines communautés stigmatisées. Il y a beaucoup de messages de haine accompagnés malheureusement par des fausses photos. J'ai vu par exemple, il y avait des photos d'enterrement en 2019 à Kigali, des ossements qu'on avait découverts autour de Kigali, et c'était des ossements des personnes tuées lors des génocides, en fait. Et on les a enterrés dignement en 2019. Et ces photos-là réapparaissent en 2023 en disant, voilà, des soldats rwandais qui ont été tués au Congo sont en train d'être enterrés à Kigali et des soldats du M23 sont enterrés à Kigali. Nous, en tant que Congo, tu leur dis, écoutez, ben, c'est ici, ça s'est passé en 2019 et je montre des références. Malheureusement, donc du coup, ça devait être très compliqué pour des journalistes de pouvoir détruire ces gens des fake news sur ce conflit, parce qu'on dit, vous prenez parti de rebelles, vous ne voulez pas accepter qu'ils ont été tués. Je dis. Et après, il y a aussi les groupes pro M23 qui sont en train de. Il y a eu une vidéo du gouverneur qui était tronquée où le gouverneur disait nous, on est contents de notre collaboration avec les Wazalendo parce que les Wazalendo traduisent en justice certains mauvais Wazalendo qui font de cas de pillage, de viol ou d'assassinat. Et après, contre pro M23, on tronquait les discours du gouverneur qui est entré. Et on a juste dit, voilà, ils ont tué ici, ils ont tué là, ils ont tué là, sans dire qu'ils étaient déférés devant la justice. Il y a eu même une chanson qui a circulé en disant que Zao, l'artiste canado-algérienne, aurait chanté pour les M23. La chanson a été très répandue. Tout ça, en tout cas, ce sont des outils que les personnes utilisent en période de tension, et ça a des conséquences réelles. Et pour finir, je voudrais dire aussi que dans la désinformation, malheureusement, ce ne sont pas que des rebelles qui les utilisent. Il y a aussi parfois des gouvernements qui peuvent l'utiliser. Ça, moi, je dis que peu importe la désinformation, même si c'est dans le cadre patriotique, ça peut mettre en danger. Par exemple, affirmer qu'une cité a été reprise alors qu'elle ne l'est pas, vous mettez en danger la population qui va vous croire et vouloir rentrer, et en fait, elle se retrouve avec des rebelles. Il faut franchement communiquer la vérité, ça ne réduit en rien le patriotisme du journalisme, du journaliste, le patriotisme des dirigeants. En période de crise, la vérité, elle est encore plus importante à ce moment-là, et les fake news, la désinformation, on la laisse aux belligérants.
Mais il y a une autre question, Rodriguez Katsouva. Certaines opinions disent que la faiblesse des médias, ainsi que le manque des cultures, de la presse et de l'information numérique, favorise la désinformation. Est-ce votre avis?
Oui, je suis pratiquement d'accord avec cela. Donc, je vais partir sur les médias traditionnels et les nouveaux médias aujourd'hui, la nouvelle façon de consommer l'information. Dans certains villages, par exemple, reculés, mais même dans des villes aussi, hein, les rédactions ont besoin d'Internet pour fonctionner. Et du coup, un jour, j'ai vu vraiment une rédaction qui est tombée sur l'information qui avait déjà évolué depuis longtemps. C'était le bateau Emmanuel qui était en détresse sur le lac Ivoire, le moteur était éteint. Il y avait déjà eu le secours à 13h et à 14h, les gens était déjà arrivé à destination, mais à 18h, le journaliste, il ouvre, il tombe, il dit que le bateau Emmanuel est en difficulté, et il met ça dans son journal, parce qu'il a eu Internet que pendant quelques temps, il n'a pas pu suivre toute l'actualité de la journée, et le soir, il diffuse cela sur sa radio. Donc déjà, le fait, cette faible accès à Internet fait que la rédaction tombe dans l'erreur, et puis après, malheureusement, nos populations ont une confusion entre ce qui est média réel et ce qui est média social. TikTok aujourd'hui a envahi le Congo, et moi je vois beaucoup de femmes d'un certain âge ou même des jeunes qui croient que tout ce qui est sur TikTok ou tout ce qui est sur Facebook est forcément vrai, en disant ben je l'ai lu sur Internet, moi je l'ai vu sur Internet, donc ça doit être forcément vrai, alors que ce n'est pas le cas. Donc ce manque de culture, ce faible accès à Internet, je dois dire, parce que quand même pour vérifier une information, il faut aller sur Google, essayer de monter des recherches ou lire des sites qui sont très lourds comme des RFI et tout ça, il faut déjà savoir chercher RFI. Après aussi, même si on le sait, il faut avoir des datas. Les gens préfèrent envoyer des messages sur WhatsApp, parler avec leur famille ou regarder des photos plutôt qu'aller vérifier. Donc ce manque de culture là, des médias, est un grand problème. Et Congo Tchèque, nous, on a du coup chez nous lancé de l'éducation aux médias, on appelle Media Literacy, donc on appelle ça les MIL aujourd'hui. Et nous, on fait tout pour que celui qui écoute la radio, en fait, dans nos projets, puisse être autant informé que celui qui est sur Internet. Et celui qui est sur Internet puisse avoir le plus facilement possible les informations. Et après, Congo Tchèque, nous avons lancé des programmes de vérification des faits par SMS. Parce qu'on s'est dit, ok, une personne n'a pas la radio, elle n'a pas les frais d'aller sur Internet, mais elle a un téléphone 2G. Parce qu'il faut le dire, la couverture des téléphones 2G, elle est au-delà des 50% en RDC, alors qu'Internet, on est encore autour de 25 à 30% à ces jours-ci. Donc, ce qui veut dire qu'au moins un
Congolais sur deux peut avoir accès à l'information via SMS, mais il faut qu'elle soit gratuite. Donc nous, on a lancé des programmes où on envoie gratuitement des informations aux gens par SMS pour qu'ils puissent lutter contre les fake news dès que des rumeurs commencent à circuler. Donc il faut vraiment travailler là-dessus. Le gouvernement devrait accompagner toutes les initiatives d'éducation aux médias. Et je me voudrais aussi que ce genre d'émissions puissent se multiplier, en tout cas, pour que les gens puissent avoir de plus en plus cette culture de vérifier les informations. Et en plus, c'est en train d'empirer aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. On peut créer des deepfakes où on peut faire chanter n'importe quoi à n'importe qui. On peut faire danser n'importe quelle danse à n'importe qui. Et pour un novice de l'Internet, il peut facilement tomber dans le panneau et avoir les conséquences qui vont s'assuivre de cette désinformation.
Rodriguez Katouva, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste en même temps co-initiateur du Congo Tchèque.
Merci, c'est moi qui vous remercie et je ne le dirai jamais assez. La Bible dit de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Eh bien, une information, une nouvelle, il faut la vérifier aussi au moins 7 fois avec 7 sources différentes avant de la partager.
Merci.
Rentrons à Goma, au Nord Kivu, pour recevoir un autre invité, toujours pour aborder ce sujet, à savoir comment impliquer la jeunesse dans la lutte contre la désinformation, ce fléau qui mine la paix. Nous recevons cette fois-ci Guy Kibira, chef de division de la jeunesse au Nord Kivu, ancien président du Conseil provincial de jeunes du Nord Kivu. Il est au micro de Stanislas Diomi.
Bonjour Monsieur Guy Kibira.
Bonjour.
Vous êtes chef des divisions de la jeunesse au Nord Kivu. Vous avez retenu comme thème, à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse, le 12 août, les compétences des jeunes au service de la paix et du développement. Que pouvons-nous retenir à ce sujet?
Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au regard de notre responsabilité, nous nous attelons sur la question de comment est-ce que les jeunes qui profitent pleinement de la NTIC, qui est la nouvelle technologie de l'information et de communication, font usage des réseaux sociaux. Et pour ça, nous nous sommes dit, il faut donner des orientations pour que les jeunes ne puissent pas faire un mauvais usage qui amènerait à mettre de l'huile sur du feu dans la communauté. Ainsi donc, nous nous appuyons sur des structures existantes, telles que Congo Tchèque, qui est une structure qui lutte contre les fake news, mais en même temps nous avons des blogueurs qui sont dans plusieurs structures telles que Wikimedia, qui sont des blogueurs avertis, formés et informés et qui participent à donner la bonne information à la place de ceux-là qui se mettent à diffuser n'importe quoi. Vous savez, avec la NTIC, c'est que chaque personne, chaque individu avec un compte social constitue un média. Alors des médias qui ne sont pas contrôlés, du coup, les gens s'amusent à publier n'importe quoi, des informations qu'ils ramassent dans tel ou tel groupe. Ils publient, ils vont aimer, ils vont publier aussi, ils vont retweeter quand il s'agit de X. Et donc, nous avons averti les jeunes du fait que c'est un danger de publier, de retweeter, d'aimer des informations qui ne sont pas vérifiées. Nous avons soulevé un autre aspect, le fait qu'il est difficile de contredire quelque chose qui est passé par les médias. C'est un autre danger. Donc, raison pour nous de les appeler à avoir des retenues pour publier n'importe quoi, surtout s'ils n'ont pas encore vérifié.
Et comment faire face à cette guerre de désinformation dans les réseaux sociaux?
Eh bien, comment faire face à cette guerre de la désinformation? Il est question d'abord que nous puissions accentuer les séances de sensibilisation des jeunes, parce que ce sont des élèves et étudiants qui font plus usage des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est pas que les moyens de communication, ça amuse en même temps les jeunes, ça les occupe dans plusieurs domaines. Ça peut être pour des faits scientifiques, ça peut être pour des faits de loisirs, ça peut être pour des faits amoureux et autres. Alors, ils font usage des réseaux sociaux, ce sont eux que nous devons sensibiliser de plus en plus, d'où ils font une sorte de matraquage de sensibilisation. Autre chose, c'est de parler aussi avec les parents, qu'ils puissent participer à conscientiser les jeunes, parce que, eh bien, si les parents s'impliquent en conscientisant leurs enfants en famille, Il est possible que les enfants prennent conscience de ne pas se précipiter à publier n'importe quoi. Mais on doit aussi faire usage de la loi. Les gens qui publient n'importe quoi et sans vérification, ils doivent être poursuivis pour leurs faits causés en publiant des choses. Très souvent, lorsqu'ils accusent X ou Y sans en avoir de preuves, ils doivent être poursuivis. Donc, il faut utiliser tous les moyens. Et lorsque les gens sont poursuivis, par exemple, à la justice, et s'ils sont condamnés, il faut vraiment qu'ils puissent être sanctionnés de manière exemplaire pour décourager les autres à ne pas refaire la même chose. Il y a donc autant de moyens que nous pouvons faire. C'est tel que je venais de vous citer, et j'espère que tout le monde met la main dans la pâte, nous pouvons arriver à atténuer cette situation.
Et selon vous, à qui profite la désinformation et quels sont les objectifs derrière les fake news?
Alors, à qui profite la désinformation? Il y a des aspects. Lorsque les jeunes agissent dans l'ignorance, je dirais que ça ne profite à personne. Au contraire, ça envenime la situation sociale, des tensions dans la communauté. Et donc, ça, c'est quelque chose, c'est une peine perdue au contraire. Mais lorsqu'il y a des intérêts politiciens, et qu'il y a des politiques qui agissent derrière leurs militants pour faire ceci, cela. Vous savez, avec les partis politiques aujourd'hui, les jeunes gens, les ligues des jeunes et autres regroupements ou organes des partis politiques, ils agissent derrière les réseaux sociaux. Vous en savez plus que moi, d'ailleurs, vous qui êtes à Kinshasa. Mmh. Donc, nous pensons que lorsque les politiciens sont derrière, c'est eux qui en profitent parce que ils vont réussir à diviser les gens, ils vont réussir à ternir l'image de leurs adversaires politiques, ils vont réussir à discréditer leurs adversaires ou leurs conquérants, et c'est comme ça qu'eux en profitent. Mais au finish, lorsqu'ils gagnent aussi par tricherie, ça les rattrape toujours. Parce que les jeunes gens, lorsqu'ils sont pas bien traités, à un moment ils se révoltent et ils dénoncent haut et fort ce qui a été fait par le passé. Et c'est alors qu'on va découvrir que tel avait soudoyé, avait payé le méga pour X ou Y pour pousser les jeunes à ternir l'image de X ou Y. Voilà comment moi je dis, mais celui qui en sort plus perdant, c'est l'État congolais. Donc l'État doit juguler, doit s'assurer que les réseaux sociaux sont vraiment contrôlés. Je sais que sous d'autres cieux, on ne peut plus accéder à des réseaux sociaux pour éviter justement que pareille situation. Finalement, à qui profite la désinformation? C'est aux personnes de mauvaise foi qui veulent ternir l'image des autres. C'est aux organisations de mauvaise foi qui veulent ternir l'image des autres. Et quand ce sont des politiciens derrière, c'est que c'est pour soit désorienter l'électorat ou les militants, pour s'attirer beaucoup plus de sympathie. C'est aussi pour des réseaux de discréditer leurs adversaires politiques, leurs concurrents. Voilà ce qui en profite. Mais je dirais que l'État en profite davantage parce que lorsque l'État n'arrive pas à juguler ce genre de situation et qu'il y a cette main levée où tout le monde peut dire n'importe quoi, c'est n'importe qui sur les réseaux sociaux, eh bien, au finish, ce sont des tensions sociales qui montent et qui risquent d'amener au déchirement de la communauté. Voilà ce que moi je pense par rapport aux fake news.
Et au regard des tensions armées dans la partie est du pays, que fait la division provinciale de la jeunesse pour lutter contre ce fléau qui est la désinformation?
Eh bien, au regard de la guerre dans notre pays et partie dans la partie est, eh bien, la division de la jeunesse ne cesse de faire des émissions pour éveiller la conscience de la jeunesse. Nous avons de l'espace sur la RTNC et sur Congo Live TV, Live TV, où nous sensibilisons à travers l'espace jeune, les jeunes à justement éviter de propager de fausses informations, des fake news, de peur que ça ne puisse embraser la communauté. Aujourd'hui, vous savez que cette guerre à l'Est n'est pas que militaire et politique et diplomatique, elle est aussi médiatique. Nous, de notre côté, face à notre responsabilité, nous avons chaque jeudi de 7h30 à 8h et à la radio et de 18h à 18h30 à la télévision, à la RTNC, où nous sensibilisons la population à rester mobilisée derrière le gouvernement congolais, derrière les institutions, à ne pas prêter oreille aux fake news que la partie adverse, c'est-à-dire les assaillants, le M23, est en train de propager sur des réseaux sociaux. Puisque vous savez, eux aussi, ils font usage des réseaux sociaux pour décourager la population à
collaborer avec le gouvernement pour démobiliser la population à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, pour les inciter à des révoltes contre le gouvernement. Et tout ça, nous sommes au courant, c'est pour cette raison que nous ne cessons de multiplier des séances de sensibilisation de la population et des jeunes pour qu'ils ne tombent pas dans ce piège. C'est donc voir là aussi les risques qu'il y a avec l'usage des réseaux sociaux. En fait, c'est un couteau à double tranchant. On peut s'en servir comme on veut, tout dépend des intentions qu'on a. Et c'est malheureux lorsqu'on a de mauvaises intentions, ça risque d'embraser la communauté et c'est très dangereux. Voilà ce que je pense, ce que nous continuons d'ailleurs à faire avec la division de la jeunesse et éveil patriotique. Il faut dire que notre ministre Noëlla Aïganagato venait de nous instruire de la campagne qui va être lancée, qui est déjà lancée d'ailleurs au niveau de Kinshasa, sous le thème Topesa RDC Chance Poto Tongayango. Cette campagne mérite d'être lancée partout dans toutes les provinces et pour moi, pour le Nord Kivu, j'ai déjà saisi le gouverneur quant à ça pour qu'on prenne les dispositions afin de faire une large diffusion de cette campagne Topesa RDC Chance Poto Tongayango. Voilà à notre niveau ce qui est fait.
Avez-vous un message à lancer aux jeunes par rapport à la désinformation?
Eh bien, le message à lancer aux jeunes par rapport à la désinformation, c'est de dire justement aux jeunes que les informations sont des armes fatales. Il faut s'en servir de manière utile et surtout prendre conscience de ces dangers-là. Donc, lorsqu'on propage de mauvaises informations, on ne peut qu'avoir les intentions de nuire. Et est-ce que nous avons besoin de nuire encore en plus de toutes les atrocités que nous subissons? En plus de la guerre, on n'a pas besoin d'envenimer des tensions sociales entre nos communautés, entre les provinces, sur le territoire national. Donc, face à la désinformation, j'appelle les jeunes à la prudence, à la retenue, à s'abstenir de divulguer ou de propager de fausses informations, sinon ils seront assimilés aux ennemis de notre pays. Plus que jamais, la jeunesse, nous devons nous souder, nous devons collaborer avec les autorités politico-administratives et j'en appelle à la même occasion à la coopération civilo-militaire pour nous assurer de parler le même langage avec nos gouvernants, nos institutions, nos services spécialisés afin de recouvrer la paix et de libérer nos territoires sous contrôle des M23.
Monsieur Guy Kibira, je rappelle que vous êtes chef des divisions de la jeunesse au Nord Kivu. Je vous dis merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie. Je remercie Radio Okapi.
C'est donc par ici que nous bouclons le magazine Banan Okapi de ce jour. Sachez que c'est votre espace dédié aux jeunes et plus jeunes autour de questions liées à l'éducation, entrepreneuriat, santé, environnement et protection de l'enfant. Je suis Sarah Soumbela, Polydor Basunga a assuré la mise en onde, Jean-Claude Sial a été à la prise de son. Ce magazine a été coproduit par André Kitenge, Rachel Kessembangou, Ezekiel Mouzali, Grévis Salomo, Guylaine Kassassia, Grasse Ouvezolo, Plamedim Biavanga et Stanislas Diomi. Gisèle Cage était à la réalisation de ce programme de Radio Okapi financé par l'UNICEF sous la supervision de Jean-Marc Matsuaki Mofelele Dijanou. Votre magazine a fait un focus sur la Journée internationale de la jeunesse avec un accent sur l'implication des jeunes dans la lutte contre la désinformation. Avec nos reportages, dossiers et nos invités, nous avons abordé quelques pistes de solutions pour permettre aux jeunes et plus jeunes de s'impliquer activement dans la lutte contre la désinformation, ces fléaux qui minent la paix. On prend rendez-vous prochainement sur Radio Okapi. En attendant, on vous confie entre les bonnes mains et la belle voix de Christelle Fritti pour l'antenne soir. Vous avez déjà rendez-vous avec le bulletin d'information de 17h. Bonne fin de la journée et surtout, profitez bien de votre soirée.